une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, samedi 11 janvier, après deux numéros d'une année d'actualité, revoici une semaine d'actualité avec les reportages de la rédaction, toujours. Les tensions entre les États-Unis et l'Iran, la rocambolesque évasion de Carlos Ghosn, la suite de la crise politique au Venezuela, ce sont trois des titres sur lesquels nous allons revenir aujourd'hui et nous allons aussi parler du climat social à Paris avec notre invité, le journaliste Romaric Godin, qui vient d'écrire « La guerre sociale en France ». Une semaine d'actualité, un magazine que vous pouvez aussi retrouver sur votre moteur de recherche préféré, sur le site de la radio, www.rfi.fr, l'application RFI 100% Radio et à la page Une semaine d'actu de Facebook. Et avant de parler de la France avec Romaric Godin, revenons d'abord sur la crise. Une crise aux multiples péripéties entre les États-Unis et l'Iran. Tout a commencé, vous le savez, avec l'assassinat par un drone américain du général Qassem Soleimani, le chef des gardiens de la Révolution, véritable numéro 2 du régime, un proche du guide suprême, l'ayatollah Khamenei. Les dirigeants iraniens ont promis de se venger, une vengeance limitée, mesurée, calibrée, sur des cibles précises, des bases américaines en Irak, à Téhéran, Tiavash Ghazi, mercredi.
Après l'attaque avec des dizaines de missiles de la base américaine d'Ain al-Assad, située dans la province irakienne d'Al-Anbar, le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, a affirmé que l'Iran ne cherchait pas la guerre, mais se défendra contre toute agression. Il a ajouté que la riposte iranienne était proportionnée après l'assassinat ciblé du général Soleimani par les Américains. Selon l'agence de presse Fars, l'attaque a été menée avec des missiles sol-sol Fateh, qui ont une portée de 500 km. La base Ain al-Assad, qui est la plus grande base américaine en Irak, est située à environ 450 km de la frontière iranienne. Les gardiens de la Révolution ont affirmé dans un communiqué que si les États-Unis ripostaient à l'attaque iranienne, ils lanceront des attaques encore plus importantes contre les intérêts américains. Ils ont également mis en garde les alliés des États-Unis dans la région qui ont mis des bases militaires à la disposition de l'armée américaine. Ils ont menacé de lancer des attaques contre ces pays si jamais ils autorisaient les États-Unis à mener des actions militaires contre l'Iran depuis leur territoire. Les gardiens de la Révolution ont également affirmé qu'Israël était complice des crimes américains. Le chef des gardiens avait laissé entendre mardi qu'Israël pourrait être la cible d'une attaque iranienne en cas de riposte américaine.
Et mercredi, Donald Trump a fait preuve d'une modération inhabituelle dans une conférence de presse après ses bombardements donc iraniens à San Francisco, correspondance d'Éric De Salve.
Visage fermé, ambiance martiale, le président américain apparaît entouré de ses ministres de la Défense, des Affaires étrangères et de ses généraux en uniforme. Après les bombardements iraniens des bases américaines en Irak, Donald Trump s'est muré dans une nuit de silence très inhabituelle. Au lendemain matin, l'Amérique retient son souffle et craint l'annonce d'une entrée en guerre, mais l'imprévisible locataire de la Maison Blanche opte finalement pour l'apaisement.
Aucun Américain n'a été blessé. L'Iran semble reculer, ce qui est une bonne chose pour toutes les parties concernées et une très bonne chose pour le monde. Nos missiles sont grands, puissants, précis, rapides et mortels, mais nous ne voulons pas les utiliser.
Pas de guerre pour le moment, pas de nouveaux raids américains non plus. Donald Trump annonce néanmoins un renforcement des sanctions économiques.
Il n'y a pas de meilleure dissuasion que la force militaire et économique. Ces fortes sanctions resteront en vigueur tant que l'Iran ne changera pas.
Le spectre de la guerre repoussée, retour à la crise politique intérieure pour Donald Trump, avec dès aujourd'hui à Washington l'opposition démocrate qui entend voter un texte destiné à limiter ses pouvoirs militaires contre l'Iran.
À Ouagadougou, un des auditeurs qui nous ont écrit cette semaine, Malik Oubda, pense qu'après avoir ordonné la mise à mort du général iranien, Donald Trump est revenu à la raison en prônant un discours qui favorise la désescalade. Fin de citation. J'ajoute que l'Iran a nié catégoriquement hier la thèse selon laquelle le Boeing 737 qui s'est écrasé mercredi près de Téhéran a été touché par un missile. Je rappelle que la catastrophe qui a entraîné la mort de 176 personnes est survenue dans la nuit peu après des tirs de missiles par Téhéran sur des bases américaines en Irak. L'évolution de la situation est à suivre dans nos journaux. « Romaric Godin, le climat social en France va donc être au cœur de ce numéro d'une semaine d'actualité également. Plus d'un mois après le début des grèves contre le projet des réformes des retraites, un projet qui va même jusqu'à semer le doute dans les rangs des députés de La République En Marche, Julien Chavagne.
Il faut arrêter la chevaux. Il y a des lignes rouges qu'il ne faut pas dépasser et c'en était une. Il faut donc revenir dessus, c'est obligatoire.
Delphine Bagary n'est pas la seule députée marcheuse à vouloir abandonner au plus vite la chevaux. Les trois quarts du groupe penseraient comme elle. Impossible de le vérifier, mais la fronde interne est bien réelle et elle cible Édouard Philippe, accusé de vouloir réformer seul contre tous. Jean-François Cesarini est l'une des voix de l'aile gauche de la majorité.
On ne peut pas se comporter aujourd'hui face à des partenaires comme si c'était des gens qui soient contre nous. Donc il faut moduler l'âge de départ suivant la pénibilité. Il y a là un vrai chemin de sortie de crise. Il faut effectivement que le Premier ministre le comprenne.
Autre critique qui revient dans les rangs de La République En Marche, Édouard Philippe chercherait uniquement à faire des économies pour plaire à sa famille d'origine, la droite. Le député Guillaume Chiche, ex-socialiste, conteste d'ailleurs l'argument financier du Premier ministre.
Si dans le projet de loi, il n'y a pas d'âge pivot, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'équilibre financier. Tout cela se débat, mais il ne faut pas en faire un préalable.
Un autre élu s'inquiète du manque de souplesse du chef du gouvernement. Si on n'arrive pas à faire passer cette réforme, c'est le coup d'arrêt pour la suite du quinquennat. Soucieux d'apaiser le climat avec sa majorité, Édouard Philippe recevra ce soir à Matignon plusieurs députés en charge des retraites à l'Assemblée.
Une semaine d'actualité.
Bonjour Romaric Godin.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de La guerre sociale en France, aux sources économiques de la démocratie autoritaire. Là, ce qu'on vient d'entendre remonte au début de la semaine, donc ce mécontentement au sein des députés de La République En Marche. Votre livre vient à point nommé, c'est le moins que l'on puisse dire, parce que vous mettez en perspective cette grève, en quelque sorte, même si ce n'était pas fait pour ça, mais il est sorti dans un climat social tendu, dans un vaste mouvement néolibéral. Et on va parler de ce mouvement néolibéral. Et il faut d'abord le définir, ce néolibéralisme, dont vous dites d'ailleurs qu'il ne s'agit pas uniquement d'économie.
Non, je crois que c'est important parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup ce mot-là. Et
d'ailleurs, à tort et à travers.
À tort et à travers. Et c'était une des questions lorsque j'ai écrit ce livre, de savoir si j'utilisais ce concept tel quel, si j'en définissais un autre. Enfin voilà, bon, j'ai pris le parti en fait d'utiliser ce concept parce que simplement il a été défini bien avant moi par d'autres penseurs et qu'aujourd'hui encore il est au cœur d'une réflexion d'une certaine école de pensée. Et moi, ce que j'essaye de rappeler, c'est qu'en fait, il ne s'agit pas effectivement d'abord simplement d'une école de pensée. C'est pas en fait l'application des idées de Friedrich Hayek ou de Milton Friedman simplement. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe. C'est un mode de gestion en fait du capitalisme. Et en tant que tel, c'est un mode de gestion non seulement de l'économie, mais également de la culture et de la société. Et c'est un changement qui effectivement induit une autre vision du monde et notamment une plus grande marchandisation, ce que j'appelle une marchandisation de la société, c'est-à-dire que tous les rapports sociaux doivent être en fait gouvernés par le marché. Ça, c'est l'horizon évidemment. Mais ensuite, effectivement, il y a des politiques qui vont dans ce sens-là.
Alors, et vous nous rappelez que ce mouvement vers le néolibéralisme, tel que vous l'entendez, Romaric Godin, est un mouvement ancien en fait, qui ne remonte pas aux dernières décennies. On parlera des années 80 peut-être, mais beaucoup plus ancien.
Oui, c'est un mouvement en fait qui fait partie de la réflexion qui a eu lieu pendant la crise des années 30, hein, où le monde en fait de l'avant-guerre de 14, le monde libéral de l'avant-guerre de 14 s'effondre. Et effectivement, il y a toute une réflexion au sein des cercles libéraux pour savoir comment on peut prendre en compte cet échec en fait de l'économie libérale. Et donc il y a deux grands mouvements, hein, le mouvement qu'on connaît keynésien qui va se transformer dans des politiques où l'État a un rôle important, et puis il y a le mouvement néolibéral qui prend en compte en fait la nécessité d'un encadrement de l'économie par l'État, mais non pas pour agir sur l'économie, mais simplement pour donner un cadre protecteur en fait au marché. Et donc, à ce moment-là, se développe ce qui fait une des particularités du néolibéralisme, qui est que ce néolibéralisme utilise l'État comme un vecteur en fait de ce changement culturel dont je parlais tout à l'heure.
Alors effectivement, avec le rôle de l'État au cœur du débat, et plus que de l'économie, parce que vous, et là je reprends votre titre, vous parlez de démocratie autoritaire, c'est-à-dire que aujourd'hui, on parlera tout à l'heure d'Emmanuel Macron et de l'actualité immédiate des retraites, vous dites que il y a une dérive quasiment logique vers l'autoritarisme quand on veut imposer dans un pays qui n'en veut pas forcément une politique néolibérale.
Oui, c'est. Alors, je ne sais pas si le terme de dérive est le bon. Tout ça, ce sont des points de détail. Mais ce qui est certain, c'est que le néolibéralisme définit en quelque sorte un objet qui est intouchable par la démocratie, qui est notamment l'objet du marché et du fonctionnement du marché. Cet objet-là, il n'est pas transformable par la démocratie, parce que c'est un objet qui, pour les néolibéraux, relève d'une forme de vérité. Et donc, effectivement, on ne discute pas de la vérité.
Donc là, il s'agit d'idéologie.
Et donc, il s'agit effectivement d'un présupposé idéologique. Et à partir de ce moment-là, le point de vue de tous les penseurs néolibéraux et de tous les gens qui ont appliqué en fait des politiques néolibérales, eh bien, c'est limiter la démocratie à des champs où ces sujets-là, l'organisation du marché, l'organisation de l'économie, les rapports entre l'État et les acteurs privés, tout cela n'est plus en réalité de l'ordre du choix démocratique. Et on le voit très bien, notamment avec par exemple en France, des points de détail, mais le Haut Conseil aux finances publiques, le fameux TSCG, qui a été le pacte budgétaire de 2012, qui a été voté par négocié par Nicolas Sarkozy, voté par la majorité de François Hollande, et qui instaure en fait des règles extérieures à l'État sur le budget de l'État. C'est-à-dire qu'il limite en quelque sorte l'acte fondamental de la souveraineté démocratique, ce qui a donné naissance au parlementarisme, qui est la création du budget de l'État.
Alors, pour être clair, il s'agit de remettre en cause et de changer de modèle, d'oublier le Conseil national de la Résistance en 1945 et de créer autre chose.
Oui, parce que si on réfléchit en termes d'équilibre entre le capital et le travail, on se rend compte que effectivement en 1945, la priorité... D'abord parce que c'était une exigence en réalité du fonctionnement du capitalisme de l'époque, mais aussi une exigence politique, était d'instaurer une forme d'équilibre entre le capital et le travail. Et pour cela, effectivement, le modèle de la sécurité sociale française, ce mélange entre les deux systèmes beveridgiens et bismarckiens d'État-providence, eh bien venait précisément donner cet équilibre. L'État était là comme garant d'un équilibre, comme régulateur et garant de l'équilibre entre le capital et le travail. Il ne fallait pas que le curseur passe d'un côté comme de l'autre ou de l'autre de façon trop forte. Donc c'est pas un modèle socialiste, c'est pas un modèle qui donne la priorité au travail, mais c'est pas un modèle libéral à l'ancienne qui donne la priorité au capital. Et puis avec la crise des années 70, effectivement, le mouvement néolibéral, lui, a décidé que cet équilibre-là était une entrave au développement économique, et que le développement économique ne pouvait se faire que par le développement du marché, c'est-à-dire par la mise à disposition des forces des forces financières notamment, mais pas seulement, des forces du marché de façon la plus libre possible, le tout devant être, évidemment, je le rappelle, encadré et dirigé par l'État. Mais l'État ne s'implique pas dans le fonctionnement du marché, ce qui est la différence avec, effectivement, le système d'avant. Donc c'est effectivement un changement complet de perception des rapports de force, non seulement dans l'économie, mais au sein de la société.
Sept jours dans le monde.
Et quittons à nouveau la France un instant, Romaric Godin, pour nous rendre au Venezuela, cette fois qui connaît une crise politique depuis plus d'un an. Juan Guaido a finalement prêté serment comme président du Parlement, ce qui n'a guère été facile à Caracas. Reportage mardi de Benjamin Delisle.
Pendant près d'une heure, Juan Guaido et les 100 députés qui l'ont élu dimanche restent bloqués devant les boucliers anti-émeutes de l'armée et sous les huées des partisans chavistes. Une heure pendant laquelle Luis Parra préside une séance devant un hémicycle à moitié vide. C'est seulement à la fin de cette séance que les députés Juan Guaido en tête peuvent passer les grilles.
Ici, il n'y a pas eu de séance. Il n'y a que des complices de la dictature, sans le quorum nécessaire, sans la majorité, sans légitimité. Ce n'est pas à l'armée de décider qui est député et qui ne l'est pas. C'est le peuple du Venezuela qui décide et qui doit décider de l'avenir.
Derrière lui, Luis Parra s'éclipse sans un mot sous les insultes de ses anciens alliés. Et les députés chavistes réunis dans la cour observent d'un œil amusé ce triste spectacle. Juan Marín.
Ils se sont divisés, ils ne s'entendent plus. Avec cette violence, ils ne s'entendront jamais.
La majorité guaidiste se précipite ensuite sur les portes closes de l'hémicycle et force le passage pour investir la chambre. Après l'hymne vénézuélien en signe de victoire, une nouvelle séance parlementaire s'ouvre quand soudain, l'électricité se coupe. C'est donc dans le noir que Juan Guaido prête enfin serment du haut de son perchoir. Mais cela ne change rien, le Parlement a toujours deux présidents et en spectateur, un gouvernement qui se frotte les mains.
Et si nous parlions de Carlos Ghosn maintenant, Romaric Godin, après la fuite du Japon de l'ancien patron de Renault Nissan, il a tenté de s'expliquer mercredi à Beyrouth où il est réfugié, désormais correspondance de Paul Ralifé.
Pendant près de deux heures, Carlos Ghosn a déployé ses talents de grand communicateur devant plus de 150 journalistes venus des quatre coins du monde pour tenter de laver sa réputation selon ses propres mots. En forme, sur les plans moral et physique, le mania déchu de l'industrie automobile s'est employé à défendre ses arguments devant des journalistes tout attentifs avant de se prêter avec facilité au jeu des questions-réponses. Sa première cible est ce qu'il a appelé le système, en allusion à la justice japonaise, inhumaine et irrespectueuse des droits les plus fondamentaux, a-t-il accusé. C'est le sentiment que son procès pourrait traîner des années sans réelle possibilité de se défendre qui l'a poussé à fuir le Japon. Il a ensuite tenté de démonter un à un, à grand renfort de chiffres et de documents, les chefs d'accusation retenus contre lui et les soupçons qui pèsent sur lui aussi bien en France qu'au Japon. Passant avec aisance de l'anglais au français ou de l'arabe au portugais, Carlos Ghosn a répondu à toutes les questions, refusant toutefois de nommer des officiels japonais qui seraient selon lui impliqués dans ce qu'il qualifie de complot pour l'abattre, afin de ne pas embarrasser les autorités libanaises.
C'est une semaine d'actualité. Nous sommes en compagnie de Romaric Godin, qui est journaliste, journaliste à la Tribune, puis aujourd'hui à Mediapart, qui vient d'écrire La guerre sociale en France, aux sources économiques de la démocratie autoritaire, un livre publié aux éditions La Découverte. Vous nous avez expliqué cette notion de néolibéralisme, Romaric, il y a un instant. Il se trouve, et là on va en venir dans un instant avec un reportage à la question des retraites, il se trouve que la France est assez hostile à ce modèle.
Ce qu'on constate, c'est que...
Par ses références, de par son histoire.
Oui, en fait, de par son histoire et aussi, je dirais, de par le fait qu'il y a eu une véritable résistance à ce paradigme néolibéral dans les années 80-90. Et ce qui tranche assez notamment avec notamment ce qui s'est passé au Royaume-Uni, hein, où il y avait un état providence issu de la guerre très important, ou avec ce qui s'est passé dans certains états scandinaves qui dans les années 90 ont basculé dans une logique plus néolibérale. En France, effectivement, on a eu une forte résistance en 86, en 95, et on a eu ensuite une forme de modèle mixte où on est entré dans le néolibéralisme, mais en donnant des compensations, des garanties. Finalement, on a conservé cet équilibre qui était celui dont j'ai parlé de l'immédiate après-guerre, qui était celui que faisaient dans un autre contexte finalement les régimes du début de la Ve République. On a essayé de conserver ça. Pour faire en fait accepter certaines réformes néolibérales, on a donné des compensations. Et la particularité, selon moi,
de l'histoire politique récente de la France à partir de 2010 et encore plus avec l'élection d'Emmanuel Macron, c'est que cette volonté d'équilibre, elle est aujourd'hui brisée.
Alors, est-ce que Emmanuel Macron n'est pas finalement le premier président néolibéral de l'histoire de France, le vrai? Président néolibéral.
Oui, il y a eu en fait Nicolas Sarkozy entre 2010 et 2012 qui a été également très très fort de ce point de vue. Mais c'est vrai qu'on était dans une période un peu différente. Là, on a effectivement un président qui a un programme néolibéral, ce qui n'est pas là pour le coup une particularité, mais qui en revanche est décidé à l'appliquer et qui d'une certaine façon n'a surpris de personne, c'est-à-dire que c'était son programme.
Donc oui, lui dit il n'y aura pas de retour en arrière.
Non, je crois que lui il est vraiment sur cette idée. D'ailleurs il le revendique, hein, de transformation de la France, transformation en profondeur. Et on revient à ce particularisme néolibéral, hein, qui ne parle pas que d'économie, qui parle aussi de social, qui parle aussi de société et qui parle aussi de culture. Donc je pense que vraiment il y a une ambition de faire avancer cette marchandisation, ce rapport permanent au marché au sein de la société française.
Alors ce qui est assez curieux, Romaric Godin, c'est que la crise de 2008 n'a rien changé finalement.
Non, mais en fait, c'est un peu plus complexe que ça à mon avis. C'est que la crise de 2008, elle a entraîné une réaction à partir de 2010, une réaction néolibérale au sens premier du terme, hein, c'est-à-dire une volonté de retour en arrière. Et ça, la crise de la dette de la zone euro a eu une fonction très forte là-dessus, c'est-à-dire qu'on a remis le focus sur la question de la dette et des déficits, alors que la crise de 2008 et celle de 2010 qui en est sa conséquence avait pour origine effectivement la dérégulation et la financiarisation de l'économie. Donc ça a permis en fait de sauver d'une certaine façon le paradigme néolibéral. Mais c'est un sauvetage qui, à mon avis, est un sauvetage de façade, parce que en réalité, on voit bien, et on le voit un peu partout dans le monde, aujourd'hui, la crise sociale liée aux inégalités produit du néolibéralisme, et la crise écologique liée à la fuite en avant productiviste, qui elle aussi est le produit de la mondialisation néolibérale, eh bien aujourd'hui nous amène vers une impasse, et je pense qu'il y a aussi, y compris dans le gouvernement Macron, cette idée de pression permanente, hein, de fuite en avant vers une forme d'impasse, parce que en réalité il n'y a pas de solution à ce paradigme.
Alors l'argument mis souvent en avant par ceux qui nous gouvernent, notamment en matière économique, c'est de dire l'État c'est véritablement le problème parce que nous avons un endettement qui est quasiment de 100% aujourd'hui. C'est un bon argument ou pas ça?
Non, c'est un très très mauvais argument et ceux qui le disent le savent très bien, puisque ce sont des gens qui sont très cultivés. Mais effectivement, ce qui compte, l'état, la dette d'un pays, c'est d'abord sa capacité à se refinancer. En fait, un pays normal, un pays comme la France, a la possibilité en fait de rembourser sa dette en se réendettant. En fait, donc en fait, la France ne rembourse pas ses dettes, voilà, mais paye en réalité des intérêts. Or, aujourd'hui, c'est le moment où jamais, ouais, je vous dirais pour vous endetter, puisque les intérêts sont en grande partie négatifs. Donc, l'argument ne tient pas. Et par ailleurs, une des forces de la France, c'est justement son modèle social. C'est ce qui lui permet, en fait, d'avoir un niveau de croissance qui est relativement stable, d'avoir un effet stabilisateur sur l'ensemble de la zone euro. Et là-dessus, on l'a bien vu pendant la crise de 2008. Et d'une certaine façon, c'est aussi une forme de garantie pour les investisseurs qui investissent en dette française. Donc, il n'y a aucun risque.
Alors, restons en France, Romaric. On va parler de social dans un instant, mais je voudrais qu'on parle de la découverte macabre mercredi à Roissy, la découverte d'un corps sans vie d'un adolescent dans le train d'atterrissage, dans le puits du train d'atterrissage d'un avion d'Air France en provenance d'Abidjan, Pierre Firsion.
Comment ce jeune homme a-t-il pu accéder aux pistes de l'aéroport d'Abidjan? A-t-il été aidé par des personnels sur place? C'est à ces questions que va tenter de répondre la commission d'investigation mise sur pied hier à Abidjan sous la direction de l'autorité aéroportuaire. L'examen des caméras de vidéosurveillance devrait permettre d'apporter des réponses. Selon les premiers éléments communiqués hier soir par Amadou Koné, le ministre des Transports, aucune intrusion n'a été constatée sur le parking des avions de l'aéroport. En parallèle, une autre enquête pour connaître cette fois les causes de la mort a été ouverte en en France et confié à la gendarmerie des transports aériens. Un examen du corps de la victime devait être effectué mercredi. Si les résultats ne sont pas encore connus, tout porte à croire que l'adolescent, qui était âgé d'environ 17 ans selon les autorités ivoiriennes, est décédé soit d'asphyxie, soit de froid. Car à 10 000 mètres d'altitude, la température descend à moins 50 degrés et les trains d'atterrissage ne sont ni chauffés ni pressurisés. Un drame similaire s'était déjà produit en octobre dernier à Casablanca. Le corps d'un jeune homme avait été découvert dans un appareil en provenance de Conakry. Sur les 6 dernières années, le Centre d'analyse de la migration de l'OIM dit avoir documenté la mort dans des avions de 11 passagers clandestins à travers le monde.
Romaric Godin, revenons à la situation sociale en France avec une nouvelle journée d'action jeudi et des interrogations sur la réunion qui devait avoir lieu le lendemain, donc hier vendredi, sur le financement des retraites. Reportage à Paris de Bruno Faure.
De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. Pour les retraites.
De l'argent pour les retraites, on peut en trouver, disent les manifestants. Pas besoin de travailler plus longtemps. Benoît Test, patron de la FSU, en est lui aussi convaincu.
Pour nous, il n'y a pas de déficit à court terme du système de retraite, donc il n'y a pas besoin de prendre des mesures paramétriques, mais on veut bien aller en discuter pour en faire la démonstration. Il faut parler financement. Mais s'il s'agit de nous revendre et de nous survendre l'âge pivot ou quelconque mesure de régression et d'allongement de la durée du travail, là, ça ne va pas le faire.
Même méfiance chez Yves Verrier, secrétaire général de Force ouvrière.
Moi, ce que je crains, c'est que cette conférence sur le financement soit un subterfuge pour faire avaler en parallèle la mise en œuvre du régime unique par points. Et puis qu'une fois que le projet aurait été adopté, le recul de l'âge de la retraite, âge pivot ou autre, revienne par la fenêtre.
François Omeril de la CFE-CGC va encore plus loin.
On aurait dû avoir, et depuis beaucoup plus longtemps, ce qu'on appelle une étude d'impact. Nous, on aurait voulu savoir comment est financé le système, comment se répartissent les grandes masses financières, qui est perdant, qui est gagnant, tous ces problèmes-là. Eh bien, en vérité, ils ne sont pas étudiés, le gouvernement ne communique pas là-dessus. Il dit des contre-vérités, on ne peut pas discuter avec des gens qui mentent.
La CFE-CGC sera quand même à Matignon, comme les autres syndicats, mais ne se privera pas de dire si elle a le sentiment d'avoir été baladée.
Et on vous parle dans nos journaux de cette réunion de Matignon hier vendredi. Romaric Godin, est-ce que ce projet de réforme qui sera présenté officiellement à la fin du mois par le gouvernement porte la griffe du néolibéralisme? Est-ce que c'est un pur produit du néolibéralisme?
Alors c'est à mon avis tout à fait évident pour une raison simple, c'est que en fait l'objet de cette réforme par points il est double. Le premier, c'est l'individualisation de la logique.
C'est un mot important chez les néolibéraux, hein, l'individu.
Bien sûr, parce que l'individu est responsable de son propre destin, tout bêtement, et que effectivement le marché a la capacité de lui donner ce qu'il mérite. Et ça, il peut le faire que par individu. Là, c'est quelque chose de très clair, c'est que en réalité, on a un compte notionnel qui va être mis en place avec des points qu'on va acquérir tout au long de la carrière, et c'est effectivement à la fin, on va transformer ce compte en pension. Il y aura donc une individualisation de la logique. La réforme par points, c'est une réforme à cotisation définie. C'est-à-dire que vous savez combien vous payez et c'est, en fait, vous devez en avoir pour votre argent. Voilà, c'est le principe, c'est ça. C'est donc un principe de marché, même si ça continue à être un système étatique. Enfin, un système de redistribution. Le deuxième élément, c'est que la réforme par points, c'est justement parce que c'est de la cotisation définie et pas de la prestation définie, c'est le rêve de ceux qui veulent gérer le système de retraite par les coûts. C'est-à-dire qu'ils veulent en réalité pouvoir avoir un système de retraite qui fonctionne de façon autonome, avec chaque année on bouge un paramètre pour pouvoir avoir un équilibre financier permanent. Et donc je dirais que à la limite, la question de l'âge pivot, etc., c'est un peu secondaire. La vraie question, c'est qu'avec le système par points, on va avoir un système qui va être autonome du politique, et ça c'est fondamental dans la pensée néolibérale, qui va s'autogérer lui-même sous la supervision d'un comité d'experts indépendants. Encore une fois, c'est un trait très particulier du néolibéralisme, d'avoir des comités d'experts qui encadrent la démocratie, hein, puisque la démocratie ne doit pas, je l'ai dit tout à l'heure, aller chercher des décisions là où il n'y a pas lieu d'en avoir. Et donc effectivement, c'est un système qui fonctionne tout seul et qui échappe en quelque sorte aux politiques. C'est tout, et je crois que c'est pour ça que c'est vraiment la quintessence du néolibéralisme, c'est que c'est un système étatique. Il y a une étatisation du système de retraite et que cette étatisation entraîne en réalité une autonomie du politique.
Je conseille à nos auditeurs qui s'intéressent à cette question du néolibéralisme d'écouter l'émission Idées que nous avions consacrée à Walter Lippmann, parce que vous rappelez très bien dans votre livre qu'il y a eu un colloque Lippmann à Paris en 1938, qui est en quelque sorte un acte fondateur du néolibéralisme.
Complètement, c'est là où en fait tous les gens qui réfléchissaient dans leur coin autour de cette question se sont regroupés.
Avec Barbara Stiegler, je vous recommande cette émission. Alors ce qui frappe aussi, c'est qu'il y a en ce moment ce mouvement dur contre les retraites, ces manifestations, ces mouvements de grève dans les transports publics. Il y a eu le mouvement des Gilets jaunes. Le président qui se réclame du néolibéralisme voit devant lui une opposition pour le moins forte. Les Gilets jaunes ont frappé, en fait, dans tous les sens du terme, d'ailleurs, l'imagination et la vie politique française.
Oui, je crois qu'il y a une vraie... C'est le produit de ce que j'ai identifié hein, comme cette résistance au néolibéralisme face à un pouvoir qui lâche complètement la bride et qui fait des réformes très profondes pour transformer le pays en un pays néolibéral. Eh bien, ces résistances se traduisent en actes, en réaction normale à cette politique. Les Gilets jaunes, c'est la réaction... D'abord aux inégalités. Et on voit bien que même si c'est parti de cette affaire de taxe carbone, c'est pas la taxe carbone en fait. C'est la différence entre la taxe carbone et la suppression de l'ISF qui a fait un effet qui a entraîné cette colère. Ouais. Si ça avait été que la taxe carbone, au bout de deux semaines, l'affaire aurait été réglée. Ils ont retiré la taxe carbone, donc il n'y aurait pas eu de problème. Mais on voit bien que c'est plus profond que ça. Sinon, effectivement, le mouvement se serait épuisé beaucoup plus rapidement. Et donc, en réalité, il y a bien cette résistance permanente. Mais d'une certaine façon, pour le pouvoir, passer outre ces résistances, c'est-à-dire continuer à faire les réformes structurelles malgré les résistances, c'est en quelque sorte gagner ces galons de bons dirigeants néolibéraux.
Ce qui pose des questions politiques redoutables, Romaric Godin, parce que là, on en revient à cette histoire, à cette notion de démocratie autoritaire, que tout le monde d'ailleurs souligne de plus en plus, quelle que soit l'origine des observateurs, hein, les juges, les défenseurs des droits de l'homme, ceux qui observent le comportement de la police, jugent que ce durcissement commence à être problématique. J'utilise ce mot-là, mais je pourrais en utiliser un autre.
Oui, mais encore une fois, je pense que c'est le fruit d'une situation qui est d'une certaine façon paradoxale. On a effectivement un gouvernement qui mène une politique, qui a une légitimité démocratique, personne ne peut lui nier, il y a eu des élections libres.
Et ces 66% élections,
il y a eu un élu que personne n'a d'ailleurs contesté, donc il y a eu une élection démocratique, sauf que cette élection démocratique, elle a donné lieu à l'élection de quelqu'un dont le programme est rejeté par la majorité des gens. Et donc, lorsque l'on n'a pas, en fait, une vie démocratique, au quotidien, lorsque la démocratie, c'est juste de voter tous les 5 ans et souvent de voter par défaut, eh bien, dans ce cas-là, on se retrouve avec un mouvement social, avec des tensions sociales qui sont permanentes. Et lorsque l'on ne veut pas écouter le mouvement social, on passe outre. Et donc, la seule façon de passer outre, c'est effectivement de durcir le ton face à ce mouvement social. Et je crois que la réaction aux Gilets jaunes, on parle beaucoup des baisses d'impôts, etc. La vraie réaction aux Gilets jaunes, c'est la loi anti-casseurs. C'est le comportement de la police dans les manifestations. Mais le comportement de la police dans les manifestations, c'est pas la police. C'est le pouvoir donnant soit libre cours, soit donnant des ordres précis à la police de se comporter de cette façon. Je pense que effectivement, lorsqu'on est dans cette ambiguïté, où à la fois on est dans un régime démocratique, mais où la démocratie n'arrive plus à régler les conflits, le conflit social, eh bien, on se retrouve effectivement face à un pouvoir qui est dans une fuite en avant autoritaire, et puis face à un pays qui, lui, doit effectivement trouver une façon de résister à ça. Mais juste pour terminer, je pense que le cas français, l'année 2019 a montré que le cas français n'était pas isolé de ce point de vue.
Parce qu'on a vu
ces émeutes, ouais. Et ces émeutes sont du même type. C'est-à-dire qu'effectivement, on a aujourd'hui des conflits socio-économiques très forts, et la démocratie n'est plus en mesure, en réalité, de régler ces conflits.
Des manifestations notamment au Chili, qui était considéré comme un modèle en matière de néolibéralisme, non ?
Exactement, et je crois que ça a été au Chili et de façon générale dans beaucoup de pays émergents, alors qu'on nous disait que le discours néolibéral était de dire finalement la contestation des inégalités, c'est un discours de riches, c'est-à-dire dans les pays émergents, tout le monde profite de la mondialisation néolibérale et donc les gens se moquent totalement des inégalités. Et l'année 2019 a montré que c'était absolument pas le cas et que cette question des inégalités, comme la question écologique aujourd'hui, est une question qui est structurante pour l'avenir de la planète.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages. Continuez bien sûr à nous écrire. Bonjour par exemple à Ablé Wali Badiane. Je vous écoute à Bouanadji, écrit-il, au nord du Sénégal. Il se demande pourquoi les États-Unis aiment toujours provoquer la guerre avec les pays du Golfe. Fin de citation. Bonjour Alpha Idi à Conakry. Je salue Tamba Fodé dans la capitale guinéenne également. Bonjour à Mamadou Alou Diallo, à Oumar à Bamako et à Innocent à Garoua au Cameroun. À toutes et à tous, je souhaite ainsi que Vanessa Rovensky une excellente année 2020.
Une semaine d'actualité.
Et avant de continuer à parler de la situation sociale en France, avec vous Romaric Godin, partons pour l'Afrique, en Libye d'abord, avec la prise de la ville de Sirte par les troupes du général Haftar, sur l'importance stratégique de cette ville, contrôlée jusqu'ici par le gouvernement d'Union nationale. Écoutez les explications d'Alexandra Branjon.
À 450 km de Tripoli, Sirte était jusqu'à présent sous le contrôle des milices fidèles au gouvernement d'Union nationale. C'est désormais une ville supplémentaire dans l'escarcelle du maréchal Khalifa Haftar, et pas des moindres. Elle est située à une centaine de kilomètres des 5 ports pétroliers les plus importants du pays, d'où sont exportés plus de 70% du pétrole libyen. Mais surtout, Sirte contrôle un des accès routiers à la ville de Misrata. Misrata, troisième ville du pays, et surtout bastion des forces armées du gouvernement d'Union nationale. Tenir l'accès à cette ville permet de l'isoler si besoin. Et enfin, contrôler Sirte, c'est également avoir accès à son port, son aéroport et son importante base militaire. Un atout de taille pour déployer des troupes vers Tripoli, l'objectif de l'offensive lancée par le maréchal Haftar en avril dernier.
À Istanbul, où ils se sont vus mercredi, Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine, tous deux engagés dans cette guerre où ils soutiennent les clans rivaux, ont lancé un appel au cessez-le-feu, Florence Maurice, jeudi.
Les deux présidents l'affirment dans leur communiqué, ils souhaitent désormais donner la priorité à la diplomatie et exhortent donc les différentes parties libyennes à s'asseoir immédiatement à la table des négociations. Si les appels au cessez-le-feu se multiplient ces derniers jours, celui-ci est de loin le plus remarqué. Moscou et Ankara soutiennent en effet des camps opposés en Libye et sont parmi les principaux acteurs de la guerre par procuration qui s'y joue et donc de l'escalade militaire en cours. Cet appel, dernier revirement du tandem russo-turc, que sera-t-il suivi des faits sur le terrain ? A-t-il reçu l'aval des principaux acteurs libyens ainsi que de leurs autres parrains ? Au même moment hier, le maréchal Haftar, qui a repris la ville de Sirte lundi, a été reçu à Rome pendant 3 heures, mais n'a fait aucune déclaration. Quant à son rival Fayez al-Sarraj, attendu lui aussi dans la capitale italienne hier, il a finalement décidé de bouder cette étape, très irrité, selon plusieurs titres de presse à Rome, par la présence dans la ville le jour même de son ennemi de l'Est. Un peu plus tôt, au cours d'un entretien avec de hauts diplomates à Bruxelles, il aurait toutefois, selon le ministre allemand des Affaires étrangères, réaffirmé lui aussi son soutien à une solution politique et au processus de Berlin.
L'actualité africaine, c'est aussi une nouvelle attaque djihadiste contre un camp militaire à Chinegodar, au Niger, jeudi. Plus de 60 terroristes auraient été tués à Niamey, jeudi. Moussa Kaka.
C'est le poste militaire de Chinegodar à 10 km de la frontière malienne qui a fait l'objet d'attaques djihadistes à 13 heures locales.
La même technique de combat a été utilisée par les djihadistes comme à Inates, pilonnage et destruction de réseaux GSM dans le village de Daraydey. Mais cette fois-ci, la stratégie n'a pas marché. Les soldats en poste ont résisté aux assauts des djihadistes qui ont tenté de prendre en tenaille la garnison. En effet, ce sont deux colonnes de terroristes qui ont attaqué la position des forces armées nigériennes. Plusieurs véhicules lourdement armés sont arrivés du côté ouest en direction de Abakar au Mali. La seconde, essentiellement composée de plusieurs dizaines de motos, est venue du côté est venant de la forêt d'Ikarafan au Niger. Les soldats de Shinagodel, qui ont encore à mémoire la perte de leurs 71 camarades à Inates, ont opposé une farouche de résistance et ont pu donner l'alerte par radio pour demander un appui aérien. La chasse française est intervenue très vite, dit-on, sur demande de l'état-major. En 15 minutes, les Mirage 2000 de Barkhane étaient à la verticale de Shinagodel, située à 290 km au nord de Niamey. Quant aux drones américains, de sources bien informées, ils ont effectué deux frappes importantes. La première sur une colonne de véhicules terroristes en fuite et rattrapée à la frontière malienne. La seconde sur un groupe de motos des djihadistes.
Une semaine d'actualité.
Et retour maintenant en France avec les conflits sociaux, comme on dit, y compris dans certaines raffineries. Reportage par exemple à Grand Puy dans la région parisienne, signé Altine Lazage.
Devant l'entrée de la raffinerie sur le parking, le piquet de grève tient bon depuis un mois. Une dizaine de salariés tentent de se réchauffer autour d'un feu de palette. Si la raffinerie continue à produire et stocker les carburants, aucune goutte ne sort du site, que ce soit par oléoduc ou par route. C'est notre moyen pour se faire entendre, estime Cédric Barr, gréviste et salarié du site depuis 13 ans.
On fait grève à notre façon, à notre niveau, autant qu'on peut. Et nous, c'est le carburant. Ce que les Français subissent, je le subis également. On perd de l'argent sur nos salaires. C'est le prix à payer pour une éventuelle victoire, je dirais, même si aujourd'hui, c'est pas gagné.
Pour soutenir les raffineurs, des gilets jaunes et des salariés de la RATP viennent leur rendre visite. C'est le cas de Patrice, chauffeur de bus, lui aussi en grève depuis un mois.
On vient voir comment ça se passe, les soutenir et puis essayer de mobiliser, mais apparemment ils sont bien mobilisés. Il faut de la solidarité, il faut réagir à ce gouvernement qui accélère les réformes.
Les grévistes sont déterminés à durcir le mouvement si le gouvernement ne retire pas le projet de réforme. Vendredi prochain, une assemblée générale sera tenue par les salariés pour décider de la suite du mouvement.
Et le mouvement continue. Romaric Godin, dans votre livre, vous dites, dans cette analyse du néolibéralisme, vous dites que ce néolibéralisme est en crise ouverte.
Je pense que c'est ouverte carrément. Oui.
C'est pas l'impression qu'il peut donner quand on voit certaines.
Non, politiques. Mais je pense qu'il faut regarder. Il y a une réalité politique où effectivement, faute d'alternatives claires, structurées, etc., le néolibéralisme peut continuer effectivement à se déployer sous des formes d'ailleurs très différentes, hein, puisque le néolibéralisme, c'est aussi Donald Trump, c'est aussi Recep Tayyip Erdogan en Turquie, voilà. Et puis il y a la réalité. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce système, il est confronté à des crises un peu partout. La première crise, c'est une crise économique. Depuis 2008, la croissance de la productivité ne cesse de ralentir. La productivité, c'est le fondement même de la croissance capitaliste. Donc, on fait des réformes pour booster la productivité, comme on dit, et en réalité, cette productivité ne cesse de ralentir. Donc, on est dans une sorte de fuite en avant, où en fait, face à ce ralentissement de cette productivité, on est obligé encore plus de pressurer sur le monde du travail pour maintenir des profits. On a des bourses qui atteignent des niveaux records, mais pourquoi ? Parce qu'en réalité, les banques centrales ont déverser des flots d'argent sur les acteurs de la finance et qu'aujourd'hui, cette croissance des places boursières, elle est subventionnée en réalité par de la création monétaire. C'est l'inflation, en fait, c'est la vraie inflation, celle qu'on voit pas dans l'économie, mais qui est en fait le fruit de cette création monétaire. Et puis, vous avez effectivement la crise des inégalités qui devient aujourd'hui insupportable, on le sait depuis quelques années aux États-Unis, mais qui devient insupportable, y compris dans un pays comme la France, où les inégalités ont cru beaucoup moins qu'avant, mais on a vu aussi en 2018, les derniers chiffres de l'INSEE ont montré que les inégalités avaient explosé en France, notamment avec la réforme de l'ISF. Donc, et puis, effectivement, on en a parlé, hein, dans les pays émergents, les inégalités deviennent insupportables. Et puis, évidemment, il y a la grande crise écologique, et ça aussi, c'est pas un hasard. C'est-à-dire que pour sauver l'économie néolibérale après la crise de 2008, on a eu recours au moteur chinois. Et le moteur chinois, c'est quoi? C'est produire et polluer.
La question qui se pose, Romaric Godin, c'est de savoir si la lutte pour l'écologie, pour un monde transformé sur le plan écologique, est compatible avec le néolibéralisme. Là, c'est les images terribles que l'on voit en ce moment de l'Australie en feu, enfin dans une certaine partie du pays, en grande partie sans doute dû au réchauffement climatique, me font penser à cette question de l'écologie. Est-ce que le néolibéralisme permet d'avoir une politique écologique? Ça semble...
Ce qui est certain, c'est que le discours néolibéral est tout à fait compatible avec un discours écologique.
Oui, le discours.
Et ça, on le voit bien. Et je dirais, c'est peut-être là le vrai problème d'une certaine façon, c'est qu'on peut faire croire en réalité qu'en poursuivant dans cette fuite en avant néolibérale, eh bien, on pourra trouver des solutions à la crise écologique. La réalité, évidemment, est totalement différente. C'est que aujourd'hui, et je dirais, l'accélération de la crise écologique, comme je l'ai rappelé, elle est liée au sauvetage du monde néolibéral. On a sauvé le monde néolibéral, c'est-à-dire ce monde fondé sur la compétition et donc en partie sur la compétitivité, les exportations, etc., par le moteur chinois. Et c'est parce que les Chinois se sont lancés dans une fuite en avant de production pour essayer de sauver l'intégralité du système que, eh bien, on a aujourd'hui cette accélération qui n'était pas prévue il y a 10 ans. Hein. Donc, on est vraiment sur quelque chose où si on ne revient pas en arrière et si, par ailleurs, on ne prend pas en compte avec ce problème écologique, le problème social. C'est-à-dire que si on essaye de dire on va faire un monde où seuls les riches pourront se sortir finalement de la crise climatique, alors là, effectivement, on aura de gros problèmes parce que le vrai risque, c'est que le néolibéralisme, dans cette fuite en avant, tente finalement de récupérer une partie des masses en s'alliant avec des mouvements nationalistes, voire néofascistes. Et ça, on a commencé à voir quand même des éléments là-dessus, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Italie, d'une certaine façon en Espagne. Donc on a des éléments qui nous font croire que une des portes de sortie à cette crise du néolibéralisme pourrait être effectivement la fusion avec les mouvements nationalistes, et effectivement là on aurait une crise très grave.
Alors très rapidement, l'alternative au néolibéralisme serait de faire jouer à nouveau un rôle à l'État.
Oui, ce serait de faire jouer un rôle à l'État, mais surtout ce serait de redonner de la démocratie dans les choix sociaux et économiques. Et ça, par l'État ou par une diffusion de cette démocratie, je sais pas, mais en tout cas, ce serait de réfléchir absolument à cette idée de lier démocratie, égalité et écologie.
Les fins de mois et la fin du monde.
Exactement.
Pour reprendre la formule célèbre de ces derniers mois. Merci Romaric Godin.
Merci à vous.
Je recommande votre livre qui s'intitule « La guerre sociale en France, aux sources économiques de la démocratie autoritaire ». Ce livre est publié aux éditions La Découverte. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Nous vous donnons rendez-vous demain pour le magazine ID. Cette fois, nous consacrerons un nouveau numéro du magazine qui interroge ceux qui pensent le monde au siècle des Lumières et à ses critiques. Aujourd'hui notamment chez les spécialistes des études post-colonial, vous verrez pourquoi. Demain dimanche, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, nouveau journal sur RFI.
Sol majeur.